Yes, c'est à mon tour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais juste prendre celui-ci, comme ça je ne vais pas déranger les notes, les partitions. Super. Oh, il y a du beau monde ici. Je suis convaincu que si vous êtes rentré dans ce lieu avec peut-être le cœur lourd ou différents fardeaux, je suis convaincu que ça commence déjà à aller mieux. Sérieusement, avec tout ce qu'on a entendu de ce que le Seigneur fait dans nos vies, comment ne pas aller mieux? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je crois que le Seigneur est ici encore, il n'a pas fini de travailler. Et il y a quelque chose pour nous aujourd'hui, quelque chose pour toi. Je suis content de vous voir. Ce que je m'apprête à vous partager dans les prochaines minutes, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, c'est un sujet qui est connu, qui fait partie de mes réflexions depuis plusieurs années, évidemment, parce que c'est un sujet qui est important. Mais je vous dirais que depuis les 6 derniers mois, dans la dernière année et les 6 derniers mois en particulier, ce sujet-là a vraiment pris une profondeur comme jamais dans ma vie. C'est un sujet qui est simple, encore une fois, mais qui est tellement difficile à mettre en pratique ou à réaliser. Et le titre du message, si j'avais un titre à donner, c'est « L'objectif principal de Dieu ». Ou sinon, on pourrait appeler ce message aussi « Ce que Jésus peut faire lorsqu'on le laisse faire ». Ce que Jésus peut faire lorsqu'on le laisse faire. On vient de célébrer la scène, on vient de célébrer ce temps où on se remémore le fait que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous, etc. etc. Et ce dont j'ai réalisé récemment, c'est que l'objectif principal de Dieu, après nous avoir sauvés, c'est de changer notre caractère. De changer notre caractère. Et ça a l'air tellement simple comme ça, mais en fait, c'est fort parce que, et là je vous parle en tant que pasteur, en tant que personne qui peut s'appliquer à l'égard de plusieurs, pour chaque personne peut se l'appliquer, mais je vais parler en tant que ce que je suis et ce que j'ai exercé pendant les 20 dernières années. Et en tant que pasteur, et j'ose croire aussi en tant que croyant, en tant que chrétien, notre désir c'est de servir Dieu, notre désir c'est d'impacter notre génération, notre désir c'est de laisser une marque, etc. Et j'ai réalisé que ce n'était pas l'objectif principal de Dieu. Je n'ai pas dit que ça ne préoccupe pas, que ça ne fait pas partie des projets que Dieu a pour nos vies, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal de Dieu, c'est que Philippe de la Fuente, en 2018, ressemble plus à Jésus en 2018 que ce qu'il était en 2017. Et qu'en 2019, le portrait de Philippe de la Fuente, dans son attitude, dans son caractère, dans ses pensées, dans ses actions, dans ce qu'il y a de plus secret et caché en lui, soit de plus en plus à l'image de Jésus. Et c'est important de le réaliser parce que si on ne réalise pas, notre identité est placée dans tellement de choses on en a entendu parler, des choses qui sont inutiles, qui n'ont pas tant d'importance que ça dans nos vies, et on se trompe d'objectif. Et ça change vraiment notre façon de faire face à la pression, notre façon d'appréhender les situations, nos fameux « pourquoi ». Nos fameux « pourquoi » deviennent, au lieu d'être « pourquoi » en un mot, deviennent un « pourquoi ». Ça change complètement la perspective. Et c'est ce que j'ai réalisé. Et je vais faire une déclaration choc qui pourrait paraître hérétique à premier abord, mais je vais aller jusqu'à dire que le salut n'est pas l'objectif principal de Dieu. La croix n'est pas l'objectif principal de Dieu. Maintenant, je crois effectivement que de la Genèse à l'Apocalypse, tout converge vers Jésus, tout converge vers la préparation, la venue. Et ce que Jésus veut faire, c'est le moment, c'est l'événement. Il n'y a rien de plus merveilleux que Jésus mort à la croix pour moi, à ma place. Il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien de plus extraordinaire. Et de la Genèse à l'Apocalypse, on voit à travers toutes ces milliers d'années, à travers différents auteurs, tout converge. Le fil rouge de la Bible, c'est Jésus. Mais ayant dit ceci, ce n'est pas l'objectif principal de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si la croix, si le salut était l'objectif principal de Dieu, eh bien le salut serait une fin en soi. Et si le salut est une fin en soi, donc je n'ai plus besoin d'aspirer à ressembler à Jésus. Or, le salut n'est pas une fin en soi, le salut est le début de l'aventure. La croix, c'est le début. Ça ne fait que commencer. Et je ne méprise pas la croix, au contraire, bien au contraire. Comme Paul dira, je ne veux rien savoir d'autre que Christ crucifié pour mes péchés, rien d'autre. Mais l'objectif principal de Dieu, ce n'est pas le salut, ce n'est pas la croix. Le salut et la croix, c'est le moyen que Dieu s'est donné pour atteindre son objectif. Lorsque ton objectif, c'est de devenir pilote de ligne, il faut que tu te donnes les moyens d'arriver à atteindre cet objectif-là. Il va falloir que tu mettes de l'argent de côté, il va falloir que tu payes des études, il va falloir que tu étudies fort, il va falloir que pendant que tout le monde s'amuse autour, il va falloir que tu sois enfermé dans ta chambre, que tu étudies, que tu plonges dans tes livres, il faut que tu sacrifies du temps, de l'argent, de l'énergie, il faut que tu te donnes les moyens d'atteindre l'objectif. Plus l'objectif est élevé, plus les moyens, le prix que tu vas mettre va être lourd à payer. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. C'est là le message extraordinaire. Et l'objectif de Dieu, c'était de changer nos cœurs, de changer nos caractères. Et le moyen qu'il s'est donné, c'est « je vais payer cher, j'ai envoyé mon fils, Jésus ». Parce que l'objectif est tellement grand, tellement inatteignable, tellement impossible, que le seul moyen que je peux me donner pour atteindre cet objectif-là, c'est d'envoyer mon fils à la place de Philippe. De tous les Philippe et les Pierre et les Marguerite et qui y a dans ce lieu, je sais qu'il y a beaucoup de noms qui se regroupent. Et on le voit, dans la Genèse, on voit que Dieu créa l'homme et la femme et l'homme, à son image. L'image est brisée par nos péchés, et dans le jardin de Gethsémané, cette fois-ci, on ne voit plus une image brisée, mais on voit Jésus, cette fois-ci, qui lui est brisé, parce qu'il est en train d'assumer le portrait entaché par le portrait de l'humanité entaché par le péché. Il est brisé, il est en train d'assumer sur lui nos propres erreurs, déjà dans ce jardin de Gethsémané. Et plus tard, on voit dans le jardin de l'Apocalypse, où on arrive au plan initial, l'image que Dieu avait créée et restaurée parfaitement. Mais ça commence à la croix. Cette œuvre commence à la croix. Elle va s'accomplir parfaitement dans les lieux célestes. Quand on va être, c'est fini, on va être tiré de tout ce qui nous tire vers le bas. Mais en attendant, il y a une œuvre qui se fait à partir de la croix où il y a un changement qui prend place. Si je vous dis, et où ma bouteille d'eau? Ah, j'oublie ma bouteille d'eau. Si j'oublie ma bouteille d'eau, ça ne va pas bien. J'ai besoin de deux choses, du Seigneur et de ma bouteille d'eau. Maintenant, j'aimerais rentrer dans ce message-là qui pourrait être apporté de différentes façons, mais voici comment est-ce que j'aimerais vous le présenter. Je vais vous lire trois citations. Trois citations de la même personne que je trouve intéressantes quand même. Première, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu, c'est la différence faite dans la vie des autres qui définit le sens de la vie que nous avons menée. C'est quand même pas mal comme citation. L'autre, je suis fondamentalement optimiste. Je ne saurais dire si c'est dans ma nature ou si je l'ai cultivé. Une partie de ce qui fait un optimiste, c'est de garder la tête tournée vers le soleil en mettant un pied devant l'autre. Est-ce qu'on a la tête tournée vers le soleil? Est-ce qu'on a la tête tournée vers Jésus? Est-ce qu'on continue à faire un pas devant l'autre? La dernière citation, je vous rappelle, c'est le même auteur. Prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l'espoir autour de vous. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même des citations qui sont parlantes? Ça parle. Tout le monde ou presque peut faire ce genre de composition, de rédaction, de citation, de réflexion sur la vie. Je vais revenir sur la dernière. Prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l'espoir autour de vous. Super citation. Maintenant, qui a écrit ça? Nelson Mandela. Oh, la citation vient de prendre toute une autre ampleur. Super citation que n'importe qui ici aurait pu écrire. Mais quand tu t'arrêtes sur la personne qui est derrière la citation, sur la personne qui est derrière le contenu, ça change toute la perspective. Il y a des gens dans nos vies que nous écoutons, deux personnes qui ont le même discours, les mêmes propos, les mêmes conseils, mais pourtant il y a des gens que tu vas écouter plus que d'autres. Pourquoi? Parce que l'une a plus de crédibilité à tes yeux que l'autre. Pourtant c'est la même chose. Et c'est ce que je vais faire avec vous ce matin. Citation. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Ça m'a toujours consolé, cette dernière phrase. Je ne suis pas seul à souffrir. C'est qui écrit ça? Pierre, dans sa première lettre. 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 à 9. Super citation. Cette courte portion, ce court extrait de cette lettre de Pierre, un grand classique que tout le monde connaît, que nous pourrions, je pense, pour beaucoup d'entre nous, citer par cœur, elle est parlante, elle est vraie, et nous allons rentrer dans ce texte-là. Mais pour il a fallu il a fallu pour que cet homme écrive, cet homme-là, Pierre, n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit s'il n'avait pas vécu ce qu'il a vécu. Pierre n'aurait pas pu écrire 1 Pierre 5, les versets 7 à 9, il n'aurait pas pu écrire ça s'il n'avait pas vécu ce qu'il a vécu. Et c'est ce qui m'a interpellé. Pourtant, en même temps, tout en ayant dit cela, ce n'est pas tellement ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait ou ce qu'il a vécu qui est important, mais ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur ce verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et dans ce texte-là, il y a trois choses que l'apôtre Pierre nous lance. Il y a trois appels qu'il nous lance clairement. Il nous lance un appel à ne pas nous laisser alourdir par les soucis de la vie et les soucis personnels. Premier appel, à ne pas nous laisser alourdir. Il nous lance un appel à ne pas nous laisser étourdir par les activités quotidiennes et légitimes qui sont bonnes. Et troisième appel qu'il nous lance, il nous lance un appel à ne pas nous laisser affaiblir par les assauts répétés et subtils de l'adversaire. Trois appels qu'il nous lance. Maintenant, on va regarder le personnage. Qui est derrière cette citation? Qui est derrière ce verset? Et c'est presque humoristique, parce qu'il y a un contraste. Hein. Quelque chose qui... Il fallait vraiment que cet homme-là ait vécu ce qu'il a vécu pour écrire ce qu'il a écrit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Okay, je vais faire une parenthèse quand même, parce que je sais que plusieurs d'entre nous avons beaucoup de soucis. Alors, c'est bien écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je ne sais pas quel est ton fardeau, quel est ton souci, quelle est ta préoccupation, qu'est-ce qui te pèse, qu'est-ce qui te tire par le bas, qu'est-ce qui mine ton humeur. Mais il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ah oui, oui, c'est vrai, il avait dit que... Ouais, d'accord, ok. Ok, ça, ah ouais, ça aussi, c'est quand même assez lourd. Ok, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, là, il se dit, c'est bon, il ne tombera pas plus bas. Et voilà, voilà un peu le genre de comportement qu'on a. Ok, ça, Seigneur, tu peux le prendre, ça, c'est trop lourd. Et on ressort... Puis on a l'impression de se décharger de nos soucis, mais en fait, on ne s'est pas déchargé de tous nos soucis. Et ce que la Bible dit, c'est déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tout. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions sortir de ce lieu en étant déchargés de tous nos soucis. Waouh! Juste d'y penser, ça fait du bien. Juste de ne plus avoir de sac. Ah! Je suis convaincu que même si tu ne t'es pas encore déchargé, juste l'idée d'être déchargé, ça commence déjà à aller mieux. Alors, n'attends pas plus longtemps, donne ton souci au Seigneur. On revient à Pierre. Il nous encourage à nous décharger, à ne pas nous laisser alourdir par les soucis de la vie. Et pourtant, Pierre est cet homme qui, quelques années avant, se faisait du souci. Il y a un petit détail qui arrête mon attention sur la fameuse pêche miraculeuse. Lorsque, c'est dans Luc chapitre 5, si vous avez vos Bibles, au verset 5, où Jésus arrive, est en train de faire un sermon, et Jésus arrive et va dire ceci, dit, va en pleine mer, puis jette ton filet. Et Simon va lui répondre, Simon Pierre. Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lorsque nous lisons ça, la plupart du temps, on a une vision romantique, romancée de la situation. Là, il n'y a pas eu trop d'abstination, on ne le voit pas, mais je ne serais pas surpris que Pierre, il a peut-être, écoute, fais ta job, toi ton boulot, c'est nous enseigner, rabbi, enseigne-nous, fais quelques miracles par-ci et par-là, et puis laisse-nous nous occuper de ce qu'on a à faire. Moi, on me l'a déjà dit à plusieurs reprises, toi t'es pasteur, laisse le tournevis, ce n'est pas ton domaine, garde ta Bible, puis ça va bien aller, tout va bien se passer. Chacun son domaine. Puis je peux imaginer Pierre parler comme ça à Jésus, écoute, on a travaillé toute la nuit, et c'est là que le détail, moi je m'arrête, oh, nous on voit ça d'une façon romancée. Ce n'est pas une partie de pêche qu'il est en train de faire. Il n'est pas parti au Canada pour pêcher dans les grands fleuves, dans les grands lacs plutôt, parce qu'il est en période de vacances. C'est un entrepreneur dans la pêche, c'est son revenu. Perso, si je vais faire de la pêche et puis que je n'attrape pas du poisson, ben, à un moment donné, pas grave, je vais être déçu, mais je ne passerai pas toute la nuit à pêcher. J'ai d'autres choses à faire que de rester sur un bateau sur le lac. Mais quand c'est ton revenu, puis que tu sais que tu n'as aucun poisson dans ton filet, puis tu vas rentrer, puis tu as les marmots à la maison et ta femme à la maison, puis dit on n'a rien à manger aujourd'hui. Il n'y a pas de salaire aujourd'hui. Il y a une crise. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il se travaillait toute la nuit. Pour moi, ça révèle un état d'âme. Cet homme-là se faisait du souci. Il a travaillé toute la nuit. Il fallait qu'il revienne avec du poisson. Ce n'était pas une partie de plaisir. Ce n'était pas juste on pêche. Puis okay. Non. Il fallait qu'il ait quelque chose. Et là, il va assister, évidemment, au fameux miracle, à la pêche miraculeuse. Il va acheter les filets de l'autre côté, sur le conseil de Jésus. Les poissons vont rentrer tellement que les barques vont s'enfoncer, qu'ils vont appeler les... « Venez nous aider !» On s'enfonce tellement qu'il y a de poissons. Tu sais. La banque t'appelle pour dire « Faut que vous ouvriez un autre compte parce qu'on ne sait plus où le mettre. » Mais c'est ce qu'ils vivent. Mais Pierre a dû goûter à une pêche infructueuse avant d'expérimenter la pêche miraculeuse. Il a dû goûter à l'effort humain qui ne peut pas faire... qui a ses limites, autrement dit. Il a dû faire l'expérience des limites humaines. Il a dû faire l'expérience de ses capacités humaines. Et là, Jésus va intervenir et il y a la pêche miraculeuse qui va avoir lieu. Et là, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est, je crois que la recommandation de Jésus, beaucoup plus que d'avoir amené une réponse miraculeuse, répondu de façon à un besoin réel, besoin pressant, beaucoup plus que ça, cette parole a commencé, je crois, à transformer la perspective de l'apôtre Pierre. A commencé à transformer la façon de voir la vie de Pierre. Et de commencer à se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je me ferais du souci? Et alors que la plupart d'entre nous serions accrochés sur l'abondance qui arrive dans nos barques, sur la provision abondante, Pierre n'a pas perdu le focus, il a gardé ses yeux sur le pourvoyeur plutôt que sur la provision. Et son caractère est en train de changer. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle, beaucoup plus tard, il va écrire « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Et sûrement qu'il y a eu d'autres occasions où il s'est fait du souci, mais il l'a vécu. Et c'est un homme qui savait de quoi est-ce qu'il parlait. Avant de vivre dans cette certitude-là, il a passé par la vallée des incertitudes. Et sûrement qu'il a dû faire face, en tant qu'être humain sur la terre, encore à de nombreuses inquiétudes, mais sans cesse, il a dû se rappeler « Ah oui, c'est vrai, le Seigneur est celui qui pourvoit ». Mais voyez-vous, là, il y a, je crois, un changement de caractère qui est en train de prendre place, un changement de perception qui est en train de prendre place. Il est déchargé. En passant, là, quand on pense souvent, on décharge puis c'est fini. Mais pour ceux et celles qui ont besoin d'être renouvelés dans le Seigneur, je crois qu'on a tous besoin. Il y a une force, il y a un message extraordinaire, une vérité extraordinaire dans le fait de se décharger. C'est qu'à partir du moment où je suis déchargé, je peux courir plus vite, je peux me retourner plus vite, je peux faire face aux imprévus plus vite, je peux accumuler, je peux prendre la prochaine partie plus allègrement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encombré par tu cours, tu es épuisé, tu as arrêté, tu peux pas. Et souvent, on pense, OK, je me décharge mes soucis puis c'est fini. Non, décharge-toi tes soucis parce qu'un homme, une femme qui se décharge sur Dieu est un homme, une femme qui peut être rempli à nouveau de sa provision et de sa puissance dans sa vie. Et souvent on dit, Seigneur, remplis-moi, viens mon secours, viens ce moi. Mais tu ne peux pas remplir un verre d'eau qui est déjà plein. Mais j'aimerais bien te donner, mais il va falloir que tu fasses de la place. Fais de la place. J'ai tellement à te donner. Fais de la place. Décharge tout. Redeviens vide et je vais remplir des bonnes choses dans ta vie. On continue. Il nous lance un appel à ne pas nous laisser étourdir par les activités quotidiennes et légitimes. Autrement dit, à nous recentrer sur Jésus. Là aussi, c'est intéressant. C'est là où il va dire, soyez sobres, restez vigilants. La version sommaire, on va revenir sur soyez sobres, mais la version du sommaire va dire, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Voilà encore un homme qui savait de quoi est-ce qu'il parlait. Pierre, l'homme qui voit, ils ont peur, c'est un fantôme, mais c'est Jésus. Il dit, OK, si c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur les eaux. OK, j'y vais, c'est pas quoi. Mais regarde pas, il regarde à Jésus. Et là, on connaît l'histoire, il va commencer par s'enfoncer parce qu'il voit les vagues de la mer, il a la peur, j'allais dire en bon québécois, le pogne, tout d'un coup, des réflexes, ils reviennent. La peur le pogne, la peur le saisit, commence à s'enfoncer. En passant, moi j'aime beaucoup cette scène. Parce que, en fait, de un, on voit qu'il s'est carrément laissé distraire. Plusieurs années plus tard, il va dire, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Il savait de quoi il parlait quand il parlait de la distraction. Mais j'aime beaucoup ce passage, parce que ça révèle tellement notre humanité. Moi je me dis, je ne sais pas moi, tu es à la place de Pierre, tu marches sur les eaux. Tu es en face du miraculeux, parce que Jésus, ce n'est pas seulement quelqu'un qui faisait des miracles, c'était le miracle sur deux pattes, c'était le miracle incarné sur la terre. Il est proche de lui, il peut le voir, il peut le toucher, il peut sentir son haleine. Et malgré cette proximité-là, il arrive à se laisser distraire. Et nous, 2000 ans plus tard et quelques années plus tard, on marche dans la culpabilité parce qu'on se laisse distraire. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct de se laisser distraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est humain. C'est pour ça que la Bible nous rappelle, « Laisse-toi pas distraire. » Pierre n'a jamais été condamné par Jésus, espèce de « voyant ». Il dit « voyant ». OK, il a quand même dit « homme de peu de foi », mais il se laisse distraire alors qu'il t'a porté du miraculeux. Et dans ta vie, dans ma vie, combien de fois est-ce que Dieu est là, Jésus est là, il se manifeste de différentes façons. Et là, on le voit, il dit « Seigneur, merci ». Dans la fraction de seconde qui suit, exemple très, très concret, on est dans un temps de louange dans l'église où tu es chez toi. Et là, tu es là « Seigneur, merci ». En tout cas, ça c'est le vécu, ça c'est mon vécu. « Seigneur, merci », etc. Oh, « ouais, yes, alléluia, Jésus est bon, paf. » Ok, oui, c'est vrai, il faut que j'aille acheter du lait. Bon, je prends la voiture, tac, je monte dans ma voiture, ça fait même pas 5 minutes, je suis dans la voiture, j'ai un gars qui me coupe la route, j'ai envie de sortir mon fusil puis le flinguer. Pourtant, il était là. Mon humanité qui reprend le dessus. C'est incroyable. Peut-être que je suis tout seul, mais bon. Là, il y en a qui se disent, OK, ne nous mettons pas sur la route de Philippe pendant qu'il va acheter du lait. Mais ça me rassure de voir ça. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus se tient au centre même de tes occupations, en attendant qu'un seul cri, le Seigneur sauve-moi de Pierre. Il t'appelle à nous recentrer. Remarquez quelque chose, l'appel à nous recentrer. Pierre a réussi à marcher sur les eaux parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux parce qu'il a cessé de regarder à Jésus. Il a regardé partout ailleurs. Je ne sais pas quelles sont les vagues qui te font peur. Une amertume, un événement du passé. La question que je pose, qu'est-ce qui te distrait? Événement du passé, ta vie personnelle, tes propres conceptions, la peur du futur, je ne sais pas. Regardez, fixe, il marche. Détourne l'attention, il tombe. Mais regardez ceci. Encore une fois, c'est lorsqu'il a recommencé à regarder à Jésus qu'il est remonté sur la surface de l'eau, que Jésus l'a ramené à la barque. Autrement dit, vous et moi, avons autant besoin de regarder à Jésus pour dominer la loi de la gravité que pour échapper à celle-ci. Pierre regardait à Jésus, il a dominé la loi de la gravité, marché sur les eaux. Mais lorsqu'on est enfoncé, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas le fait que tu t'enfonces qui est un problème, c'est le fait de rester enfoncé. Et même enfoncé, tu as encore besoin de regarder à Jésus pour échapper à cette loi de la gravité qui te tire par le bas. Loi de la gravité physique, mais je parle de cette loi de gravité, de cette nature naturelle que j'appelle, qui est notre nature charnelle, qui est complètement à l'opposé de ce que le Seigneur veut pour nos vies. Mais tu as besoin, pour défier cette loi de gravité spirituelle-là, tu as besoin de regarder à la grâce spirituelle de Jésus-Christ afin de marcher dans les plans et de la façon dont il le désire. Donc, il savait de quoi ce qu'il parlait lorsqu'il parlait de « ne vous laissez pas distraire ». On va reprendre la version originale quand il dit « soyez sobre et veillez ». Là, je suis mort de rire. Pierre, « soyez sobre et veillez ». Ben oui, qui c'est qui parle? Parce que le terme « sobre », si on va regarder dans le dictionnaire, on parle de tempérance, exemple dans la nourriture, on parle de maîtrise de soi, on parle de faire preuve de discrétion, de retenue. On parle de maîtrise de soi. Pierre était tout sauf ça. Pierre, c'était cet homme qui parlait et ensuite disait « Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu tourner ma langue cette fois dans ma bouche. » Mais non, lui, il parlait, il pensait après. Lui, réfléchir et parler, ce n'était pas dans son tempérament, ce n'était pas dans sa personnalité. C'est un homme impulsif. « Ok, j'y vais, Seigneur, ok, je fonce. » Paf, coupe l'oreille de l'autre. C'est un gars impulsif, aucune maîtrise de soi, ou presque. Et c'est lui qui, plusieurs années plus tard, va dire « Soyez sobre. Ne vous laissez pas distraire, soyez sobre. » Il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Et là, on voit qu'il y a une transformation plusieurs siècles plus tard, plusieurs années plus tard plutôt, parce que l'enfoncé, donc Pierre l'enfoncé, va devenir celui qui va encourager les autres. Tu es enfoncé peut-être aujourd'hui, mais ce n'est pas fini pour toi. Le Seigneur est en train de faire un changement, de travailler le caractère. Et celui, celle qui est enfoncé aujourd'hui, est celui ou celle qui demain relèvera son prochain. Et Pierre est une inspiration pour nos vies. Il y a une transformation qui a pris place. Ça, c'est vraiment encourageant. Ensuite, dernière chose, il nous lance un appel à ne pas nous laisser affaiblir par les assauts répétés et subtils du diable. Il nous appelle à résister, autrement dit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui à dévorer. Qui dévorer. Bon, en passant, le diable a bon dos, hein, souvent. Il y a beaucoup de choses qu'on met sur le compte du diable, mais sur la note du diable, mais aujourd'hui, dans bien des situations, on lui donne plus de. On lui facilite la tâche. Des fois, c'est nous qui faisons des propres choix et on met ça sur le dos du diable. Maintenant, il existe, ceci dit, il existe quand même une réalité où on est dans un combat spirituel. Il y a une réalité qui est là. Et Pierre va dire, il dit, soyez sobre, il dit, résistez-lui, sachant que ces mêmes souffrances sont imposées à tous dans le monde, à vos frères et sœurs partout. Encore une fois, à qui est-ce que cette parole a été dite de la part de Dieu? Et voici ce qu'il va dire dans Luc chapitre 22. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie ses frères. Et Seigneur lui dit, Seigneur lui dit Simon, je suis prêt, I'm ready, je suis ton homme. Quelques heures plus tard, perdu sur toute la ligne. Je suis prêt. Le caractère que Christ voulait en lui n'était pas encore formé. Puis je pense que ça prend une vie complète pour être formé. Il y avait encore beaucoup de choses à travailler. Mais c'est ce Pierre-là qui, plusieurs années plus tard, va dire « Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, à dévorer notre foi. » Puis un lion, encore une fois, ce n'est pas une petite image, là. C'est impressionnant, hein, pour ceux qui ont vu des films un peu sur le sujet, un lion qui dévore, tu peux faire des cauchemars pour le reste de tes jours. Hein. C'est sérieux. Mais il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Mais Pierre a toujours laissé faire Jésus. Dans la barque, il dit « Ok, laisse-moi, ok, bon, je te laisse faire Jésus, je vais jeter mon filet de l'autre côté. » Boum, Seigneur pourvoit. « Ok, je te laisse faire, tiens, sur ta parole, je marche et surtout je te laisse faire, je regarde à toi pour que tu puisses me remonter. » Et par la suite, il n'a même pas le choix de laisser faire. Il va renier Jésus, mais le Seigneur va le ramener. Il a prié pour lui, le Seigneur va le ramener. Et cet homme-là va être celui qui, encore aujourd'hui, à travers lui, Dieu fortifie des vies. Encore aujourd'hui, des siècles plus tard. L'objectif principal de Dieu, c'est la transformation de caractère. Dieu est beaucoup plus préoccupé par notre transformation que par notre destination. La destination, il l'a déjà acquise par la croix. À partir du moment où je mets ma confiance en lui, c'est fini, la destination est là. Mais la transformation, ça c'est lui qui l'a fait. Il y a une collaboration qui se fait avec Jésus. Dieu est un Dieu qui aime transformer, il transforme l'eau en vin. Il a même transformé le nom de Simon en Pierre. Il transforme des cœurs de pierre en cœurs de chair, des cœurs durs en cœurs dociles. Et c'est là que le Seigneur se plaît. Et à partir de la croix, une aventure commence. Et en fait, notre identité n'est plus dans ce que je fais, dans ce que j'écris, mais dans ce que je deviens. Mon identité, plutôt dans ce que Jésus est en train de devenir en moi. Et lorsqu'il y a une situation qui arrive dans ma vie, la question n'est plus pourquoi en un mot, mais pourquoi. Et pendant que certaines personnes s'arrêtent sur les choses du passé, sur la douleur, sur l'incompréhension, sur le sentiment d'injustice, sur l'amertume, celui ou celle qui a compris que Dieu, le seul but qu'il a, le principal but qu'il a, c'est de changer nos caractères. Lorsque tu as compris ça, tu abordes la vie différemment parce que pendant que les autres sont en train de s'arrêter, de se ruminer, de se faire de la bile, toi tu t'arrêtes et tu dis « Ok ». Qu'est-ce que mes réactions révèlent à mon sujet? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi par rapport à Dieu? Quelle est l'image qui est en train de se révéler à travers ces épreuves-là? Et en fait, Dieu veut, à travers Jésus, à travers son esprit, transformer nos caractères. Et pour ça, ça peut passer à travers mille et une situations. Attention, je n'ai pas dit qu'il permet le malheur, qu'il permet le désastre, ce n'est pas ça. Nous avons un Dieu de bonheur, tout ce qui est bon vient de lui. Mais Dieu est assez Dieu pour, à partir de la pire des tragédies de la vie, faire émerger un diamant. Un Dieu de transformation. D'ailleurs, quelqu'un m'a appris il n'y a pas très longtemps que le diamant est formé à partir du charbon. Waouh! Un charbon, et Dieu a donné sa vie pour un vulgaire charbon que je suis. Et j'ose croire que ce vulgaire charbon est en train d'avoir quelques facettes qui brillent. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais il y a une petite partie à côté, quelque part, dans votre angle mort, dans mon angle mort, que je ne vois pas, mais qui est en train de briller. Oh yes! C'est pareil pour vous. C'est une bonne nouvelle, ça. Est-ce que vous avez vu ici, j'ai bientôt terminé, est-ce que vous avez vu ici, est-ce que j'ai quelque chose écrit ici? Non, vous n'avez pas vu? OK, ici, c'est écrit « site en construction ». Chantier en construction. Je suis en devenir. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et depuis que cette réalité a pris une profondeur de plus dans ma vie, il y a tellement de choses qui vont plus facilement dans mon être intérieur. Wow! Est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas impacter cette génération? Non. Je termine avec ce verset, avec quelques explications. Hébreux chapitre 1, verset 3, parce qu'on parle de caractère. En parlant de Jésus, ce chapitre 1 d'Hébreux nous dit ceci, en parlant de Jésus, c'est que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le terme à retenir ici, c'est que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et le terme empreinte, littéralement en grec, c'est charactère, qui a donné en français le terme caractère. Jésus est le reflet parfait, le caractère parfait de la marque précise de la nature de Dieu. Et ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est forger l'empreinte de Christ dans notre vie. Et cette empreinte-là, elle se forme. C'est la même chose dans vos... Des fois, on dit « Ah, mais le caractère, ça ne change pas. » Ce n'est pas vrai. C'est faux. Personnalité peut changer, demeure, tempérament, mais caractère, tu peux le changer. Vous avez un ordinateur, est-ce que vous êtes déjà arrivé de changer de police? « Ah, ben, j'écris en police un New Roman, maintenant j'écris en... » »« Ah, ben, change Comic Sans. » Vous avez déjà fait ça dans vos ordinateurs? Mais dans notre vie, c'est pareil. Et le mot caractère, c'est vraiment ce qui a donné à l'imprimerie cette police, cette impression, cette pièce de monnaie aussi qui a donné ce terme à ces pièces de monnaie où on voit le visage de l'empereur ou du roi ou de la reine ou du président ou peu importe de certains pays qui est imprégné. C'est par la pression, c'est par les situations de la vie qu'il y a un caractère qui se forme. Et dans la mesure où je le laisse faire, Seigneur, ah, ça fait mal, ah, ça fait mal. Mais au lieu de m'apitoyer, je dis, ok. Et il y a un caractère qui est en train de... Il y a l'empreinte de Jésus qui est en train de se former. Nous avons tous des personnalités différentes ici. Nous avons tous des talents différents. Nous avons tous des couleurs de peau différentes. Nous avons tous des arrière-plans spirituels différents. Nous avons tous un cheminement, des âges différents. Mais nous avons ici tous des traits de caractère qui sont en train de sortir à la surface. Et ce caractère-là renvoie à qui? C'est cette pièce de monnaie qui dit « Cette pièce m'appartient à Jésus, appartient au royaume des cieux. » On peut être tous différents, mais nous avons l'empreinte de Jésus dans nos vies. Ce qui fait que cet amour est là. Et là, je parle d'impacter la génération. Pourquoi c'est important? Pourquoi Dieu veut travailler notre caractère? Parce qu'à partir de son empreinte, à travers de chaque individu que nous formons, qui ensemble, dans la totalité, forme l'Église, l'Église devient l'empreinte, la marque, le reflet de ce que Jésus est et veut faire dans la vie de quiconque. Et là, il y a un impact. Parce que là, c'est plus juste des paroles, c'est plus juste une théorie, c'est plus juste un prédicateur de passage. Il y a une empreinte qui est là, qui est visible. Et j'en passe, dis, wow, je ne connaissais pas cette empreinte. Je ne connaissais pas ce style de vie. Et là, je ne parle pas de bonne morale, je ne parle pas d'être un bon monsieur, une bonne madame qui arrive à l'heure au travail. Non, je parle d'un caractère transformé à l'image de Jésus-Christ. Ce caractère qui est capable de pardonner l'impardonnable, d'affronter l'insurmontable, de rester debout dans les pires moments de sa vie. Un caractère qui ressort d'intégrité, d'humilité, de courage, un caractère. Et Pierre a dû vivre ce qu'il a vécu pour écrire ce qu'il a écrit. Et savez-vous quoi? Juste incroyable. C'est que Pierre a fait beaucoup plus qu'écrire des lettres. Pierre est devenu une lettre vivante. Le Seigneur veut beaucoup plus que tu conseilles quelqu'un. Le Seigneur veut beaucoup plus que je prépare un message pour que je le livre à des gens. Il veut que Philippe soit beaucoup plus qu'une prédication audible, mais une prédication sur deux pattes dans sa vie de tous les jours quand quelqu'un lui coupe la route alors qu'il va acheter du lait. C'est ce qu'il veut. Une lettre vivante. Et cette lettre, ce Pierre, est une lettre vivante. On ne peut pas, et toute son identité n'est pas dans ce qu'il a, n'est pas dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il aurait pu faire. Son identité est en Jésus, dans ce qu'il devient en fonction de Jésus. Wow! Et il nous laisse un héritage. Je ne sais pas s'il y a un chant, je pense que j'aimerais qu'on puisse terminer. On a chanté « Comment exprimer ce chant, j'aime beaucoup, comment exprimer, je ne saurais comment te dire. » J'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant et dire Seigneur, entends mon cœur. Puis qu'à travers ce chant, chacun là où on est, et une fois qu'on arrivera à la fin du chant, je vais céder la place à qui de droit pour la suite de cette réunion. Et à travers ce chant-là, en toi et le Seigneur, tu peux avoir cette prière. Seigneur, viens me transformer. Seigneur, entends mon cœur. Je suis tellement reconnaissant pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Viens me transformer. Peut-être que ça nous est déjà arrivé, je pense, à tous. On a un projet de construction, puis on le met en suspens. Projet de scrapbooking, je connais plusieurs personnes qui aiment le scrapbooking. Tu as un projet, là, puis tu le mets en suspens, je le reprends plus tard. Tu as un projet d'apprendre une langue, puis là, tu t'es rendu à telle leçon, puis tu le remets à plus tard. Il y a des projets de vie comme ça qu'on... C'est en suspens. Peut-être que c'est le moment aujourd'hui de dire où est-ce que j'en suis dans mon chantier? Est-ce que j'ai suspendu les travaux? Oh oui, c'est Jésus qui œuvre, mais avec notre collaboration. Est-ce que j'ai suspendu les travaux? OK, je vais ressortir de ce lieu, puis Seigneur, reprise des travaux. Viens me transformer. Viens me transformer à ton image. Puis pour ce qui est d'impacter l'entourage, il va s'en occuper naturellement à travers les moyens et ce que nous sommes. Est-ce qu'on peut simplement, si vous voulez rester assis, vous pouvez aussi rester assis, mais qu'on puisse vraiment à travers ce chant, toutes sortes de pressions que tu vis, plusieurs façons de percevoir ce que tu vis. Mais sois encouragé aujourd'hui. Dieu est celui qui entend ton cœur. Dieu est celui qui connaît tes souffrances. Il est celui qui a un plan. Il est celui qui est en train de former son image, son caractère en toi. Laisse faire ce que les autres ont fait, pas fait ou auraient dû faire. Oublie ce passé qui tire vers l'arrière. Pose-toi pas plus de questions sur de quoi sera fait le futur. Juste regarde à Jésus. Seigneur, entends mon cœur. Tu as besoin de pleurer, pleure. Je ne saurais comment te dire. Entends ce chant d'un enfant racheté. Jésus t'a racheté à grand prix. Ce n'était que le début. Il a mis son cœur en toi, il veut maintenant développer son caractère en toi, en moi. Chantons ensemble, Seigneur, entends mon cœur.
Comment expliquer? Et comment décrire un amour sinon si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour. Alors entends mon cœur, mon esprit. alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai le fer de mort pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour.
Je partage avec vous les annonces que je vous laisse découvrir à l'écran pour le programme de la semaine et qui est encore light. Mais attention, c'est la dernière semaine où il est light. La semaine d'après, mardi 28, il y aura la rencontre des aînés et puis le soir, la réunion de prière. On reprend les activités de semaine par une réunion de prière. Donc dans une semaine. Au fond de la salle, sur le petit meuble, il y a une petite pile de journaux qui s'appelle Ta Jeunesse, qui sont des journaux pour les jeunes, comme son nom le dit. Puis ils sont là pour être utilisés, alors voilà. Prenez-les, faites-les servir. Et puis il y a juste à côté l'urne pour le vote, pour l'acceptation de Philippe en tant que pasteur de l'Église. Et c'est la dernière semaine où on peut voter, on pourra voter encore dimanche prochain, puis ensuite dimanche prochain, après le culte, il y aura le dépouillement. Alors voilà, ceux qui n'ont pas encore voté, moi je vous invite à le faire, c'est important. Il y a aussi sur le tableau d'affichage une feuille d'inscription pour les décafés, le moment qu'on a vécu tout à l'heure, donc tous les 15 jours. Le prochain sera dans 4 semaines, parce que dans 2 semaines, il n'y aura pas de culte ici. Mais là aussi, je vous invite à vous inscrire pour que ces moments conviviaux puissent continuer, qu'ils soient aussi un temps utile entre nous. Donc dans 2 semaines, il y aura... Dans 3 semaines, il n'y aura pas de culte ici. C'est donc le week-end d'église qui aura lieu à Champfleury, juste avant Grenoble. Par contre, le délai d'inscription, puisqu'il faut s'inscrire, savoir un petit peu combien est-ce qu'on sera, c'est quand même mieux. Le délai d'inscription est fixé à dimanche prochain. Il y a donc une feuille au fond de la salle pour pouvoir s'inscrire. On peut s'inscrire soit sur papier, soit sur Doodle qui a circulé par email. Ce qui est important, c'est de s'inscrire qu'une seule fois, c'est plus simple à gérer. Et puis juste pour dire aussi que donc le samedi matin, il y aura une balade, une petite randonnée qui est proposée, pour laquelle il faudra partir un petit peu plus vite, partir le matin, rendez-vous ici sur le parking à 8h. Ce sera donc, la balade, c'est la Chame Chaude. C'est donc un petit sommet qui est en face de Champfleury, sur la montagne de l'autre côté de la vallée. Et donc c'est, depuis la Chame Chaude, il y a un panorama magnifique Parce que bien sûr, il y a une vue plongeante sur Grenoble, sur Champfleury, sur tous les environs, mais on voit presque tout Rhône-Alpes depuis la chambre chaude. Sympa quand même. Alors voilà. Par contre, il faut marcher un petit peu. C'est pas dur comme balade, mais il y a 1h30 pour monter, 1h pour descendre. Enfin voilà. Le prix ne doit pas être un frein à participer au week-end. Ça, c'est important. Et puis, ce week-end, si on le met en place, c'est pas seulement pour passer du bon temps ensemble. C'est aussi, comme nous a invité Philippe, un temps dans lequel on veut laisser notre Dieu nous changer de façon individuelle aussi, de façon personnelle, et puis en tant qu'Église aussi. Le laisser agir pendant ce week-end, c'est ça le but. C'est ce que nous voulons vivre ensemble aussi. Une autre information à partager, donc, la maison de John et Isabelle Winston a subi un dégât des eaux. Et apparemment assez, assez important, donc on veut penser à eux, parce que ça, c'est clair, ça fait du travail. On peut bien se dire qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Mais alors, pour le coup, ils sont à la recherche d'une entreprise générale qui pourrait effectuer une remise en état de l'ensemble de la maison. Alors, si quelqu'un connaît une entreprise générale fiable dans le bâtiment, bien, c'est bien de leur communiquer l'adresse. Ce n'est pas forcément évident hein, de connaître ce genre d'entreprise. Donc, si quelqu'un a fait une bonne expérience avec une entreprise, bien, autant le leur communiquer. C'est important de pouvoir partager aussi cela. Et puis, pensons à eux aussi dans cette situation qui n'est forcément pas simple. Je vais laisser Jean-Paul nous donner des nouvelles de Mike. Vous avez remarqué qu'il n'est pas là, il n'était pas là dimanche passé non plus.
Voilà, après une attente longue, Mike a enfin été pris dans un centre ce jeudi. On l'a emmené ce jeudi. D'abord, il dit qu'il pense bien à vous, très fort à vous. Il a remercié beaucoup parce qu'il lui dit ça tient du miracle. Il attendait une semaine, il avait demandé une semaine de délai et tout d'un coup, mardi à 11h, on lui a dit il faut être là jeudi à 10h. Donc c'est un petit peu raide, mais bon, voilà, on l'a emmené, il est très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, deux choses, il faut continuer à prier pour lui, beaucoup, beaucoup prier pour lui, pour l'encourager. Vous pouvez lui écrire, l'adresse est au fond, sur un petit papier, vous pouvez également lui mettre un SMS ou un mail, il a le droit à son téléphone. Ne lui téléphonez pas parce que ça va être compliqué, mais un petit SMS, ça passe bien, pas de souci, puis c'est limité aussi en longueur. Donc voilà. Et puis une autre chose, on avait un projet, c'est que pendant que Mike est loin, on a l'idée de lui refaire son appartement, complètement. Ça demande de s'organiser. Il y a du boulot, hein. Là, il y a du boulot. Ça demande du boulot. Donc, tous ceux qui sont disponibles pour donner dans le mois qui vient du temps, beaucoup de temps, peu de temps. Il y aura du nettoyage, donc c'est tout sexe confondu le boulot là. Il y aura beaucoup de nettoyage, il y aura de la peinture, il y aura de la menuiserie, il y aura un tas de choses à faire. Donc voilà, on voudrait mettre ça en place. Donc vous venez me contacter, puis on va se mettre en ordre, on va aller à plusieurs voir le chantier exactement, ce qu'il faut faire, par où il faut commencer. Donc merci de continuer à prier pour lui, de le contacter. Et puis je l'ai eu juste avant le culte au téléphone, il a dit « tu salueras bien tout le monde ». Parce que j'ai vraiment envie que tu les salues. Donc voilà.
Merci. C'est vrai, c'est important aussi de penser les uns pour les autres, de se soutenir et de remettre Mike dans nos prières et de le garder dans notre cœur aussi. On veut aussi penser à Charlie qui n'était pas très bien cette semaine. Quelques vertiges, un moment plus difficile. Voilà, que Dieu te garde et te renouvelle Charlie. S'il n'y a pas d'autres annonces à partager, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Ésaïe 55. « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera la myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. » Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.